Chapitre 15e, un intermède. La maison où j'espérais voir s'achever la guérison de ma femme n'était pas encore prête. L'architecte l'avait conçue, d'ailleurs, sur un plan si vaste qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce que sa construction prît un certain temps. Nous dûmes louer une maison meublée à Halsmer, d'où nous nous transportâmes, au début de 1897, dans les Moorlands. Là, dans une pension de famille au-dessus de Hindhead, voisine de l'endroit où se bâtissait notre nouvelle demeure, nous passâmes quelques mois heureux et affairés en attendant l'été qui devait enfin nous mettre chez nous. Je faisais de l'équitation. Bien que je n'aie jamais été un cavalier de premier ordre, je prenais grand plaisir et trouvais un profit de santé à cet exercice. Le pays, boisé et couvert de bruyères, se prête à de belles courses dans toutes les directions et les chasses auxquelles je participais y sont au moins pittoresques. En juin, nous prîmes possession de notre maison. Je la baptisai Undershaw, d'un mot que je fabriquais, je crois, mais qui, en bon anglo-saxon, disait bien ce qu'il voulait dire, puisqu'elle s'abritait sous un bouquet d'arbres. J'ai peu parlé de ma production littéraire durant ces années occupées par des questions de santé. Le principal livre que j'avais écrit depuis les réfugiés était une étude des jours de la Régence avec leurs dandies et leurs boxeurs professionnels. J'ai toujours eu un faible pour les pugilistes et les combats d'autrefois, et j'y avais cédé dans ce roman. La boxe ne connaissait pas à l'époque cette vogue, cette popularité dont je me suis laissé dire que l'origine remontait à mon livre, et je n'oublierai jamais la surprise de George Newes quand il en connut le sujet. « Pourquoi diable une pareille histoire ? » s'écria-t-il. J'ai cependant lieu de croire que les lecteurs du Strand ne se plaignirent pas de mon choix. Entre-temps, j'écrivais Force Nouvelle, et je publiais, en 1898, un duo. Cette petite étude de la vie domestique, en partie imaginaire, en partie fondée sur des données personnelles ou sur les expériences de mes amis, fut cause que je me chamaillais publiquement avec un homme qui s'était signalé comme critique, le docteur Robertson Nicoll. Il blâma un passage du livre, en quoi il usait assurément de son droit, mais comme il écrivait sous différents noms dans 6 ou 7 journaux, on eût dit que j'eusse encouru plusieurs condamnations alors qu'en réalité il n'y en avait qu'une. Me jugeant lésé, je protestais avec une telle véhémence que Robertson Nicoll se demanda s'il le répondrait dans la presse ou devant les tribunaux. Cependant, l'incident s'aplanit et nous devînmes très bons amis. Un autre de mes livres qui appartient à cette période, c'est l'Oncle Bernac. Encore qu'il ne m'ait jamais satisfait, j'ose prétendre que les 2 chapitres où j'y peins Napoléon donnent de lui une image plus claire que ne font de gros volumes eux-mêmes extraits de 20 autres. Sauf le continuel état maladif de ma compagne, j'avais tout, en ces années-là, pour être un homme heureux. Et néanmoins, je portais dans l'âme une inquiétude. Je me sentais né pour quelque chose de différent, sans discerner ce que cela pouvait être. Je ne cessais d'interroger les diverses religions du monde. Je ne pouvais pas plus revenir aux anciennes qu'un homme ne peut entrer dans ses costumes d'enfant. Je raisonnais toujours dans un sens de matérialisme. J'adhérais à l'association rationaliste, j'en lisais avec soin la littérature, mais elle était entièrement destructive. En outre, j'étais assez convaincu de la réalité des phénomènes psychiques pour savoir qu'il existait un ordre de fait inaccessible à toute explication rationnelle et que par conséquent, un système qu'ils ignoraient ou ne pouvaient s'accorder avec eux était forcément entaché d'imperfections. D'autre part, certain que derrière ces faits nouveaux dont je ne doutais pas, se cachait une intelligence haute ou basse, j'en méconnaissais évidemment les tenants et les aboutissants. Je confondais encore le coup frappé à la porte avec la présence extérieure de l'ami et la sonnerie du timbre avec la communication du téléphone. J'avais parfois la paix du désespoir en songeant que peut-être on n'arriverait jamais qu'à des conclusions négatives. Puis, une nouvelle impulsion de l'âme me lançait dans une nouvelle quête. J'allais jusqu'au bout de toutes les directions sans en rapporter aucune satisfaction absolue. Il n'eût tenu qu'à moi d'échapper à tous mes troubles en souscrivant de plein cœur à n'importe quelle forme d'orthodoxie, mais toujours ma raison s'y opposait. Durant nos périodes d'exil, et notamment la période égyptienne, j'avais consacré la plus sérieuse assiduité à la question psychique. J'avais lu tout ce que je pouvais lire et de temps à autre organisé des séances qui m'avaient donné des résultats indifférents, mais non pas tout à fait négatifs, encore qu'elles eussent lieu sans l'aide d'aucun médium spécial. Déjà commençait d'apparaître lentement la philosophie du psychisme. Il devenait, petit à petit, plus manifeste que la vie se poursuivait dans l'au-delà non seulement sous une enveloppe plus ténue, mais dans des conditions semblables à celles que nous connaissons sur Terre. J'en étais là du chemin parcouru, les fêtes ne m'avaient pas encore imposé leur autorité souveraine. Il m'arrivait, par-ci par-là, qu'une expérience trancha sur la banalité des autres. J'en citerai une, par exemple, du temps où j'habitais Norwood, en 1892 ou 93. La Société des recherches psychiques me demanda si je voulais être d'un petit comité chargé de vérifier un cas de maison hantée à Charmouth, dans le Dorchestershire, et de dresser un rapport. Je consentis à me rendre sur place en compagnie d'un certain Dr. Scott et d'un homme qui avait lié son nom à ces sortes d'enquêtes, M. Podmore. Il nous fallut faire, depuis Paddington, tout un long trajet en chemin de fer pour aller nous rendre compte de bruits inexplicables qui rendaient la vie impossible aux locataires, lesquels, tenus par un bail, ne pouvaient s'en aller. Nous siégeâmes sans nous coucher deux nuits consécutives. La première nuit, rien ne se produisit. La seconde, le Dr. Scott nous quitta. Je restais seul avec M. Podmore. Nous avions pris, bien entendu, toutes nos mesures pour déjouer la fraude, tendu des fils de laine en travers des escaliers, etc. Au milieu de la nuit éclata un vacarme formidable. On eût dit que quelqu'un tapait avec un gros gourdin une table sonore. Cela n'avait rien de commun avec les craquements accidentels d'une boiserie, ni avec quoi que ce fût d'analogue. C'était un tintamarre assourdissant. Nous avions ouvert toutes les portes. Nous n'eûmes qu'à nous précipiter dans la cuisine, d'où venait sûrement le tapage. Nous y trouvâmes tout dans l'ordre, porte fermée à clé, barre aux fenêtres, fil de laine intact. Podmore prit la lumière, fit semblant de regagner avec moi notre poste et s'enfuit près du jeune maître de la maison pendant que j'attendais dans le noir le retour du bruit. Mais le bruit ne se renouvela pas, il ne devait plus se renouveler. Nous ne sûmes jamais ce qu'il avait occasionné. Il était du même caractère que tous ceux dont nous avions eu la connaissance par nos lectures, mais il fut de moindre durée. L'histoire eut cependant une suite. Quelques années plus tard, un incendie détruisit la maison. L'accident avait-il ou non un rapport avec l'esprit qui la hantait, je l'ignore. Un fait plus suggestif, c'est que l'on découvrit, enterré dans le jardin, le cadavre d'un enfant d'une dizaine d'années. Cela, je le tiens d'un des membres de la famille qui avait si fort tourmenté les bruits. On supposa que l'enfant avait été assassiné longtemps auparavant dans la maison et que les phénomènes dont nous avions eu un aperçu étaient plus ou moins la conséquence du drame. Il est une hypothèse suivant laquelle une jeune vie brusquement et violemment tranchée laisserait derrière elle un important résidu de vitalité capable de s'employer à d'étranges usages. L'inconnu et le merveilleux nous pressent de toutes parts. Ils se laissent entrevoir au-dessus de nous, autour de nous, sous des formes flottantes et imprécises, quelques-unes brillantes, toutes nous rappelant les limites de ce que nous appelons la matière et aussi le besoin de la spiritualité si nous voulons garder le contact avec la vérité profonde des faits qu'apporte la vie. On ne me demanda jamais de rapport sur l'affaire, mais Podmore en fournit un, qui attribuait les bruits au jeune homme de la maison, bien que celui-ci se trouvât avec nous dans le petit salon où s'était produit le tumulte. Sans doute une complicité était possible, malgré toutes nos précautions. Ce qui ne l'était absolument pas, c'était l'explication de Podmore. J'appris là une chose dont j'ai, depuis, constaté souvent la justesse, à savoir que, quelque attitude critique que nous prenions à l'égard des affirmations psychiques, nous devons, pour parvenir au vrai, prendre la même à l'égard des négations et surtout à l'égard des prétendues révélations qu'on leur oppose. Maintes et maintes fois, j'ai pu avoir la preuve que négations et révélations venaient ou d'un préjugé ou d'une méconnaissance des lois spirituelles. Ceci m'amène à une autre aventure qui m'échut vers cette époque, probablement vers 1898. J'avais pour voisin un petit docteur que j'appellerais Brown. Petit, il l'était par la taille et, je crois, par la clientèle. Il s'occupait d'occultisme. Ma curiosité s'éveilla quand je sus qu'il avait chez lui une chambre où nul ne pénétrait que lui-même et réservée à des fins mystiques et philosophiques. Apprenant que je m'intéressais aux questions de cette nature, il m'offrit un jour de m'affilier à une société secrète d'ésotérisme. Toute une enquête préliminaire l'avait conduit à me faire cette invitation. Voici à peu près le dialogue qui s'établit alors entre nous. « De cette affiliation, que résultera-t-il pour moi ?» lui demandai-je. « En temps voulu, me répondit-il, vous acquérez des pouvoirs. »« Des pouvoirs de quelle sorte ?»« Des pouvoirs que les gens appelleraient surnaturels. Ils sont parfaitement naturels, cependant, et s'obtiennent par la connaissance des forces intimes de la nature. »« S'ils sont bons, pourquoi tout le monde ne les acquérerait-il pas ?»« Parce qu'entre des mains malfaisantes, ils deviendraient dangereux. »« Comment pouvez-vous empêcher qu'ils ne tombent entre des mains malfaisantes ?» En examinant avec soin nos initiés. J'aurai donc à être examiné, certainement. Par qui? Par des gens de Londres. Devant qui j'aurai à me présenter? Pas du tout, cela se ferait à votre insu. Et puis vous serez tenu d'apprendre. D'apprendre. D'apprendre par cœur une masse énorme de matière, ce serait la première chose. Si les matières dont vous parlez se trouvent dans des livres, comment ne passent-elles pas dans le domaine public? Elles ne se trouvent pas dans des livres. Elles sont dans des manuscrits. Chaque manuscrit, soigneusement numéroté, est confié comme un dépôt d'honneur à un initié. Nous n'avons jamais eu de mécompte. Ma foi, dis-je, cela me paraît très intéressant. Marchez, je vous donne carte blanche. Environ une semaine après, je fus éveillé par une sensation extraordinaire. Elle ne procédait point du cauchemar, ni même du simple rêve, car elle persistait alors que j'étais pleinement réveillé. Je ne saurais mieux donner l'idée qu'en disant que j'avais des fourmillements dans tout le corps. Ce n'était point douloureux, mais bizarre et désagréable, comme le seraient des secousses électriques. Je pensais tout de suite au petit docteur. À quelques jours de là, j'eus sa visite. « Vous avez subi l'examen, » me dit-il en souriant. « À vous maintenant de déclarer si oui ou non vous voulez poursuivre. Vous êtes libre. La chose est sérieuse. Vous devez ou bien y renoncer, ou bien vous y donner de tout cœur. » Je commençais de comprendre qu'en effet la chose était sérieuse. Si sérieuse que je ne mis pour elle aucune place disponible dans ma vie surchargée d'occupations. Je le déclarai au docteur. Il prit ma franchise aux bonnes parts. « Très bien, » fit-il. « Nous n'en parlerons plus, à moins que vous ne changiez de disposition. » Une ou deux semaines s'étaient écoulées quand, par un jour de pluie diluvienne, le docteur revint me voir. Il amenait avec lui un de ses confrères, qui m'était connu de nom pour s'être distingué comme explorateur et médecin sous les tropiques. Tous les deux s'assirent au coin de mon feu et nous causâmes. Je ne pus m'empêcher de remarquer que l'illustre voyageur se montrait plein de déférence envers le petit médecin de campagne qui pourtant était son cadet. « Il est de nos initiés, » me dit celui-ci, et se tournant vers son compagnon. « Savez-vous, » continua-t-il, « Doyle a failli devenir des nôtres. » Le voyageur à ces mots me regarda d'un air vivement intéressé. Puis, tout aussitôt, son mentor et lui s'engagèrent dans une conversation sur les prodiges qu'ils avaient vus et même, autant qu'il me sembla, positivement accomplis. J'écoutais tout ébobie, je croyais entendre les propos de deux fous. Une phrase du voyageur se fixa dans ma mémoire. « La première fois, dit-il, que vous m'avez enlevé avec vous dans l'espace, tandis que nous planions ensemble sur la ville que j'habitais d'ordinaire en Afrique centrale, je pus voir pour la première fois aussi les îles sur le lac. J'avais toujours su qu'elles étaient là, mais beaucoup trop loin pour qu'on les aperçût du rivage. N'est-il pas extraordinaire que je les ai découvertes alors que j'étais en Angleterre ?»« Oui, » lui répondit Brown en fumant sa pipe, les yeux attachés sur le feu. « Nous nous amusions en ce temps-là. Vous rappelez-vous combien vous avez ri quand nous avons créé le petit bateau à vapeur et qu'il s'est mis à voguer sur la crête des nuages ?» D'autres réflexions s'échangèrent tout aussi saugrenues. « Entendre deux compères pour impressionner un naïf, » objectera le sceptique. « Restons-en là, si le sceptique le veut. Mais je ne garde pas moins le sentiment d'avoir frôlé quelque chose d'étrange, quelque chose que je ne regrette pas d'avoir évité. Ce n'était pas du spiritisme, pas de la théosophie, mais le fait que des hommes eussent rendu effectifs chez eux certains pouvoirs latents de l'organisation humaine, comme on prétend que c'était jadis le cas chez les gnostiques et que ça l'est encore aujourd'hui chez les fakirs de l'Inde. Il y a pour moi une chose certaine, c'est que la morale doit aller de pair avec la connaissance. Les Maoris cannibales ont le savoir et le pouvoir psychique, mais ils n'en sont pas moins des mangeurs d'hommes. L'éthique chrétienne doit maintenir sa place, quelque expansion que nos facultés psychiques puissent prendre, et la théologie chrétienne ne le peut aussi bien qu'elle le veut. Pour en revenir au petit docteur, je le rencontrai de réchef et psychiste renforcé à Portland, dans l'Oregon, en 1923. Je croirais, sur ce qu'on m'en dit, que les pouvoirs de la société à laquelle il appartenait incluaient, pour ses adeptes, la faculté de libérer leur corps éthérique en faisant appel au corps éthérique d'autres personnes, le mien par exemple, et en suscitant des images factices, par exemple le bateau à vapeur de la manière dont on nous assure que c'est possible par la force de la volonté. Mais leur philosophie ou la notion de leur développement spirituel me dépasse. Je crois qu'ils représentent une secte des Rose-Croix. Au jour dont je parle, tout avait une physionomie placide. Chez nous, la santé de ma femme demeurait bonne, tant l'hiver que l'été. Nos deux enfants traversaient doucement les phases diverses de la croissance. Ils mettaient du bonheur dans la maison. Ma vie se partageait entre le travail et le sport. De même, tout allait bien pour l'Angleterre. Elle connaissait la prospérité, le succès. Cependant, l'Afrique du Sud commençait d'allonger sur nous son ombre. Avant que l'orage ne passât, nos destinées personnelles allaient s'en trouver affectées comme bien d'autres. J'avais un respect profond pour les bourgs. Je ne laissais pas de craindre leur adresse de tireur, leur situation inaccessible, leur obstination, leur ténacité teutonne. je prévoyais qu'ils seraient pour nous des ennemis dangereux. Et depuis le raid intempestif de Jameson, je voyais avec horreur le cours des événements nous mener tout droit à la guerre ouverte. Ce fut presque un soulagement pour moi lorsqu'enfin elle éclata et que nous pûmes mesurer clairement l'ampleur de notre tâche. Peu de gens s'en avisaient encore. À la veille même des hostilités, Lord Wolseley, dans un dîner que lui offrit sous ma présidence le club des auteurs, déclara que nous pouvions envoyer 2 divisions en Afrique. Le lendemain, les journaux débattaient à qui mieux la question de savoir s'il nous était possible de réunir ou nécessaire d'expédier de pareilles forces. Qu'eussent-ils pensé si on leur avait dit que, pour remporter la victoire, il ne faudrait pas moins de 250 000 hommes, dont une proportion notable de cavaliers? Les premiers succès des Boers ne surprirent pas quiconque étant un peu soit informé de leur histoire. Ils firent comprendre à tout Anglais que ce n'était pas un verre de vin, mais un fusil, qu'il fallait lever à la santé de l'Angleterre.